j'ai de gaieté bien française. Alors, sans bouger le sourcil, je me dis pendant ce temps-là, ceux qui n'ont pas vu mon cul le voici, ceux qui n'ont pas vu mon cul le voilà, ceux qui n'ont pas vu mon cul le voici, ceux qui n'ont pas vu mon cul le voilà. De la chair jeune de 20 ans, qu'étalera fièvre ou bataille, savez-vous que c'est épatant quand on la drague ou qu'on la taille? Et le morticole abruti, portant du velours sur la manche, numérote mes abatis pour les lendemains de revanche. Alors, sans bouger le sourcil, je me dis pendant ce temps-là, ceux qui n'ont pas vu mon cul le voici, ceux qui n'ont pas vu mon cul le voilà, ceux qui n'ont pas vu mon cul le voici, ceux qui n'ont pas vu mon cul le voilà. C'est la croix au dos du mouton, il a dit bon pour le service. Un sergent vague écrit mon nom.
La musique.
Carabanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pantalon!
Vive le soleil!
Vive les oreilles!
Libre!
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde entier, à Juvisy, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières, autre forme de création curieuse sur Radio Libertaire. Donc. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Grégoire Letouvet. Bonjour Grégoire.
Bonjour Christophe.
Alors, on a commencé l'émission avec Primal, de ta formation Les Rugissants. On va en parler. Alors, mais avant, tu sais, moi j'aime bien savoir la genèse des vies de musiciens. J'aimerais savoir quelle a été ta formation musicale, comment tu as appris à jouer du piano et pourquoi avoir choisi le piano d'ailleurs.
C'est pourquoi. Parce que je n'avais pas le choix. Tout simplement, je n'ai pas choisi. Donc, ouais, moi j'ai grandi dans un village au fin fond de la Vendée. Ah. Et donc en fait j'étais le deuxième d'une fratrie de quatre enfants. Ouais. Et donc ça faisait partie des activités qu'on nous proposait. Ma famille n'est pas musicienne à la base, hein, du tout. Quasiment nulle part dans la famille. J'ai juste un oncle qui était facteur d'orgue, mais donc je l'ai découvert bien plus tard. Ouais. Un grand-oncle qui était facteur d'orgue. Et en fait bah voilà, on faisait des activités. Plein d'activités, du sport, de la musique, ce qu'on pouvait faire dans le coin. Et en fait, j'ai commencé le piano, j'avais 7 ans, parce que voilà, on faisait ça avec mes frères. Ça faisait partie des activités hebdomadaires, puisqu'il n'y avait que ça dans le coin. Et il s'est avéré que moi, j'étais assez content de faire ça, apparemment, selon mes parents. Moi je m'en souviens pas, on avait 7-8 ans quand on a commencé. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que quand on a changé de professeur et on est arrivé avec une professeure qui était en fait, qui habitait à 10 km, qui vivait dans une ancienne école, une ancienne école municipale, qu'elle avait réhabilitée avec sa compagne. Et en fait c'était la dernière élève d'Alfred Cortot. Donc Alfred Cortot, le fondateur de l'école normale de musique à Paris, donc un des plus grands pianistes du monde de la première moitié du XXe siècle. Donc cette femme avait doit avoir actuellement un âge canonique, mais donc elle a été son élève à la fin des années 50, et par hasard, un pur hasard, elle avait atterri là, et on a été ses élèves, mais nous on ne savait absolument pas que c'était une prof d'un très très haut niveau. Ouais. Et donc on a appris la musique comme ça, avec mes frères, on n'avait aucune référence, et moi j'étais particulièrement investi là-dedans, ça me plaisait de plus en plus, et j'ai commencé à travailler ensuite l'harmonie, tout le reste, sans formation. J'ai commencé le conservatoire, j'avais 18 ans.
Ah tiens.
Voilà. Ouais. Et donc j'ai fait du piano, des groupes de rock avec mes frères, c'est comme ça un petit peu qu'on a commencé. J'ai appris à lire les accords avec les petits fascicules à l'époque, je sais plus comment ça s'appelait, Starmania, Jean-Jacques Goldman, etc. Juste pour lire les accords, savoir comment ça marchait. Et je me suis passionné de ça quand j'avais 12, 13, 14 ans. Mais je ne savais pas du tout lire la musique, quasiment pas.
Ah d'accord, ouais.
Voilà, et en fait, je suis rentré dans plusieurs groupes de balles à l'époque. Donc, j'ai joué dans 5 ou 6 groupes de balles où, en fait, ils cherchaient... c'était des semi-pros, hein, c'était pas du tout des professionnels. Enfin, pas du tout, mais c'était quand même des conditions assez professionnelles de balles, donc assez roots. Mais du coup, j'ai appris plein de chansons. Donc, moi, vraiment, ma formation de base, à part la musique classique que j'ai appris avec ma prof classique qui faisait que du Beethoven, Bach, et puis un petit peu de moderne, c'était jazz... Mais c'était boogie-woogie, quoi. C'était vraiment pas sa cam. Le reste, je l'ai appris vraiment en pop, en fait. Enfin, en variété.
Chanson.
Chanson. Claude François, Starmania, Eddie Mitchell. Voilà, j'ai appris mes premiers accords de 7e avec Eddie Mitchell, quoi.
Ah, tiens. Ouais. Mais alors, donc tu rentres au conservatoire à 18 ans. Et après, tu vas découvrir, j'imagine, le classique, le contemporain et tout.
Voilà, c'est ça. Bah oui, la culture musicale jusqu'à mes 17-18 ans était plutôt à la fois classique, mais il n'y avait aucune structuration là-dedans. Hein. Je vais écouter du Beethoven, et puis à l'époque, il n'y avait pas Internet du tout. Hein, donc en fait, on ne pouvait pas voyager d'une playlist à une autre. Il fallait regarder les disques. Mes parents écoutaient de la musique, un peu de tout. Hein, mais ils avaient des disques de musique classique, de jazz, etc. Je n'étais pas passionné par ça non plus, parce que pour moi, ça sonnait comme le conservatoire. Et conservatoire, à l'époque, pour moi, c'était un monde étranger.
Ouais.
Complètement, j'y ai mis les pieds 2 heures pour un cours d'harmonie à La Roche-sur-Yon. Et je suis sorti au bout de 2 heures et je disais, je ne comprenais rien. Pour moi, ça sentait la perruque, le clavecin et tout. Et puis, j'étais adolescent. Hein, donc, forcément, on n'a pas trop de patience à cet âge-là. Et j'ai découvert, et la culture, c'était surtout rock, variété. Donc, quand même, une culture très, très riche. On s'en rend compte après. Hein, mais moi, j'étais fan de Radiohead. Et donc, déjà à 15-16 ans. Et donc, je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était une musique très, très riche. Et puis, dans la chanson française aussi, Nougaro, Brel. C'était tous les arrangements, c'était des choses qui me touchaient beaucoup, même le texte, la complexité de certains textes, la poésie, le côté symboliste et tout. Donc en fait, j'avais quand même une culture, un peu populaire et en même temps très très disparate, qui ensuite, en arrivant au conservatoire, j'ai appris à lire la musique et à me reformer finalement, à remettre un peu les choses dans l'ordre. Ouais. Et forcément, la musique contemporaine, j'en avais entendu, mais là... pour moi, elle commençait à 17-18 ans. En fait, j'ai commencé à rentrer dans la musique contemporaine par le jazz. Et puis après, l'école de Vienne, Schoenberg. Après, j'ai un peu tout fait dans l'ordre. Mmh. Et je me suis formé entre mes 18 et mes... Bon, de toute façon, on se forme toute sa vie, mais ma formation jusqu'à mes quasiment 30 ans, quoi.
Ah, d'accord.
Et donc, j'ai fait les grandes écoles.
Ah, voilà.
J'ai fait conservatoire à Nantes en jazz, en écriture, etc. Puis je suis monté à Paris. J'ai fait le CRR de Paris en jazz, le CNSM de Paris en composition. Donc là, en plus, c'est ça qui est marrant, c'est que moi, j'avais tellement pas de prédestination à ce métier-là, à cette voie-là, puisque il y a très très peu de... Moi, j'ai quand même grandi dans un désert culturel, quand même. Professionnel, ça n'existait pas dans notre logiciel, ni dans celui de mes parents. Donc, c'est vraiment une voie qu'on fait tout seul. Mais du coup, moi, j'ai jamais eu aucun problème à... D'ailleurs, dans ce que je t'ai envoyé, que tu vas diffuser, entre faire du jazz de création instrumentale, de la musique contemporaine complètement perchée, de la chanson super mainstream. Pour moi, il n'y a pas de grande ou de petite musique, quoi. C'est vraiment tressé. Et puis, maintenant, j'en suis là maintenant. Et on verra.
Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Et voilà, entre les musiques de bal, entre les balles et les rugissants dont on va parler, quelles ont été tes premières expériences en tant que musicien pro, on va dire, une fois que tu avais acquis les bases et tout ça? C'était quoi? Est-ce que tu as eu des formations, d'ailleurs?
Des formations, ah oui, des formations, des groupes. Finalement, oui, bon, il y a eu des prémices, mais en fait, les prémices entre mes 20 et mes 25 ans ont mené au rugissant. C'est-à-dire que j'ai commencé vraiment à travailler le jazz avec un quartet d'amis, quand je suis arrivé à Paris vers 19 ans, 19-20 ans. Donc, on faisait que du Coltrane. On était passionnés par Coltrane. Que du Coltrane, et on écrivait des compositions. Enfin, moi, j'écrivais des compositions dans le style de Coltrane, un style un peu plus, voilà, bon, pas le Coltrane, mais qui était teinté de moi, mes recherches aussi harmoniques, ouais, de pousser plus loin, etc. Mais en tout cas, c'était ce jus-là qui nous intéressait.
Ouais,
moi, j'avais pas du tout de culture de jazz dans l'ordre, avec Armstrong, Duke Ellington, etc. Et ensuite, on va jusqu'à Brad Mehldau et tout. J'avais aucune idée de ça. On avait flashé sur Coltrane. Moi, j'écoutais que Mingus, Monk et Coltrane à cette époque-là.
Ouais.
Et j'avais pas idée de ce qu'était le reste de cette histoire-là dans les détails, évidemment. Mais ces formations-là, en fait, les rencontres que j'ai faites ont mené à cette grande formation, les Rugissants, donc de 10 musiciens actuellement. Mmh. On a commencé en faisant un ciné-concert, quelques concerts. Et puis moi, ma professionnalisation au sens gagner ma vie en faisant ça, elle s'est faite aussi en composant. Et c'est ce qui m'a formé aussi en tant que compositeur, composant des musiques de films et des musiques de scène.
Ah, d'accord.
Donc ça, j'ai fait ça beaucoup au début. Et voilà, je me rends compte maintenant que c'était super aussi, parce que ça permet d'avoir à la fois une commande et en même temps, j'ai eu la chance de travailler avec des gens hyper ouverts,
ah oui,
sur la musique, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de productions qui m'appellent actuellement pour faire ça.
Ouais.
Où en fait on avait une énorme liberté et on pouvait aller très 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 loin dans la création sonore et dans la création musicale, même parfois beaucoup plus qu'en concert.
Ah, super. Ah, tu peux me donner des noms, tu sais que j'aime bien le cinéma, moi c'est un peu mon travail aussi.
Alors bah, là j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui étaient à la FEMIS, parce que j'ai fait une partie de ma scolarité là-bas, parce que je voulais être ingénieur du son, enfin je voulais pas être ingénieur du son, mais
oui,
je me suis retrouvé plus ou moins là-bas, enfin je me suis retrouvé là-bas, mais je suis parti de cette école, mais donc pas mal de gens qui sont de la FEMIS, donc là qui sont plus dans le film d'auteur français. Il y avait Thomas Caillet, il y avait Julien Guetta, et puis des gens qui sont devenus producteurs, ouais, Christophe Barral, Julien Naveau, les films du Vorso, voilà, c'est des gens qui font une superbe carrière actuellement. J'étais dans une promo après Rebecca Zlotowski, voilà, donc j'ai croisé tous ces gens là d'ailleurs, ouais, j'avais fait un ciné-concert qu'avait programmé Rebecca à l'époque. Donc voilà, bah c'est, bon après c'était des super expériences, mais actuellement je travaille, j'ai travaillé avec aussi une boîte de production Capricci Film qui a drainé une quantité importante d'auteurs français et européens. Et actuellement je travaille avec une réalisatrice qui s'appelle Mali Haroun, notamment qui est plutôt dans le style vidéaste,
ah oui,
pour le cinéma, avec un ami qui s'appelle Romain Daudet-Jahan, qui fait des films de genre.
Ouais.
Voilà, mais c'est des collaborations maintenant que j'ai un petit peu tassées.
Ouais, d'accord. Voilà. Revenons aux Rugissants. Alors, comment s'est créé l'ensemble Les Rugissants, et quelle était ton idée, peut-être esthétique, quand tu as monté ce groupe?
Cet ensemble, il s'est créé par la base, c'est-à-dire, en tout cas moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire une commande qu'on se passe à soi-même, hein, c'est-à-dire enfin un désir d'assembler ces gens, et donc ça s'est fait, je crois, sur des rencontres un peu en session, comme ça, en répétant. Moi j'écrivais de la musique, mais je composais pas véritablement, hein, j'avais 22-23 ans, je composais pas assidûment à la table en me disant tiens, il y aura le sax qui va faire ça, etc., ouais, etc. C'était plus pour travailler la musique, donc on s'est rencontrés, voilà, comme les rencontres se font, via des jams, via des cursus de conservatoire, etc. C'était plus des rencontres sans arrière-pensée, et ensuite, moi j'ai voulu faire un concert. Voilà, ouais, en fait c'était le premier projet, on va faire un concert. On a fait aussi un ciné-concert, parce qu'il y avait une occasion qui se présentait qui permettait qu'on se paye, et le groupe a commencé à se monter comme ça. On était 5 à la base, mais dont le batteur Jean-Baptiste Paliès, le clarinettiste Corentin Gignot et l'un des saxophonistes Rémi Scrib faisaient déjà partie de ce groupe à l'origine.
Ah, d'accord.
Voilà, donc ils sont là depuis 12 ans, 13 ans. Parce que ensuite on a augmenté ça, en tout cas ça nous a plu, on a eu de bons retours, il y a eu une bonne énergie, synergie autour de cet ensemble. On a trouvé le nom un peu plus tard, parce que j'avais monté une compagnie avec d'autres gens qui faisaient de l'opéra, qui s'appelait la compagnie des Rugissants. La partie opéra s'est éteinte, et du coup on a repris juste pour la formation de jazz, et donc ce groupe-là, ce groupe a pris ce nom. Oui. J'ai proposé ça.
Mais j'avais une question.
C'était pas une idée préexistante en disant on est un groupe de potes, on va s'appeler les Rugissants. C'était ça, je leur ai proposé ça et puis ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau et puis au bout de 2 ans, on a un peu structuré les choses à la fois dans la structure des Rugissants et dans la musique. On avait véritablement un répertoire de concerts, toute une équipe qui nous suivait et donc là on est passé à 10.
Mais alors, comment ça s'est fait? C'était assez rapide, le passage du quintet, parce que vous étiez 5 au début, au tintet, au fait d'être 10 musiciens. C'était rapide ou ça a pris un certain temps? Comment
ça a évolué? Ça a été rapide, ça a évolué parce que moi j'ai toujours été attiré par les orchestres.
Ouais.
Quand je dis orchestre, c'est une grande forme orchestrale. En tout cas, orchestre à 10 musiciens, il y a 250 ans, il y a 150 ans, ils nous riaient au nez, ça c'est une formation de chambre. Mais en tout cas, la musique aujourd'hui, on peut estimer que c'est un orchestre. En tout cas, ça rentre dans les grands formats actuels. Et ça s'est fait rapidement dans la mesure où le répertoire existait déjà. Moi, j'avais envie d'arranger des choses qu'on avait déjà faites à 10, enfin à plus. Et c'était un peu un concours de circonstances qui fait qu'on avait rencontré telle personne. Et je me suis dit, tiens, on pourrait équilibrer comme ça. Mais de toute façon, j'avais aucune idée d'orchestration académique, on va dire, à l'époque. Mais vraiment aucune. Il y avait un trompettiste, un tromboniste. On a rajouté véritablement un sax alto et puis un sax baryton. Et ça s'est fait très rapidement parce qu'il y avait un concert qu'on pouvait faire à 10. Donc j'ai créé cette occasion-là. Mais je sais pas, c'était on a répété 2 fois avant pour voir, et puis à l'époque c'était pas aussi fin l'arrangement que maintenant. Mais voilà, ça fait partie de moi. Je crois qu'il faut se cracher un peu dans ce genre de choses. Par contre, voilà, il y avait une dynamique et puis c'était une expérience que moi j'ai adoré et puis que eux ont beaucoup aimé aussi. La masse sonore, la masse humaine aussi, on est porté, quoi.
Alors tu viens de contredire l'idée que je m'étais faite du nom du groupe. Moi je m'étais dit Rugissant parce qu'il y avait quand même le line-up, c'est pas rien, 4 saxophonistes, trompette, trombone, clarinette. Après il y a la section rythmique, mais il y a quand même énormément de soufflants.
Ouais.
Pour quelle raison? Pourquoi pas? Il y a plein d'autres instruments.
Parce que c'était en tout cas le langage que moi je voulais explorer, les musiciens de jazz, de culture jazz, musique improvisée, étaient les plus à même de foncer là-dedans.
Ouais.
Voilà, c'était des rencontres de gens avec qui je me sentais bien artistiquement, qui étaient stimulants, où aussi on pouvait vraiment parler de plein de choses, écouter plein de musique ensemble. Et par ailleurs, moi, je faisais aussi des projets beaucoup plus écrits, enfin complètement écrits, pourquoi tu raccordes, ou des projets de chansons. Où il n'y avait pas d'écriture. Donc ça permettait aussi d'avoir un équilibre. Et d'ailleurs, tous les musiciens de l'ensemble, c'est pareil, on a tous des activités dans diverses musiques, dans divers styles musicaux. Et là, on voulait en fait finalement rentrer dans la case, enfin on ne voulait pas consciemment le faire, mais on rentrait dans la case un peu big band, enfin petit big band, même si là, on parle plutôt d'ensemble instrumental. En plus, ils sont polyinstrumentistes. Donc je me sers de ça très très souvent. Flûte, du coup il y a plein de fois où on peut faire des choses très serrées dans le grave, très serrées dans l'aigu. C'est très très malléable, et ça pour le coup ça a stimulé en tout cas moi mes désirs de composition de par pièce. Et voilà, et là on est rentré dans une autre phase qui était vraiment une composition au long cours sur une vie d'un groupe sur plusieurs années. Et d'ailleurs là cette année ça faisait les 10 ans d'existence du groupe.
Ouais.
À 10.
Pas mal, pas mal. Et alors, on n'est pas il y a 150 ans, et effectivement, un groupe de 10 musiciens, maintenant, c'est assez imposant, vu les contraintes économiques que subit la culture depuis des années, et n'est-ce pas, quelque part, un défi d'avoir un groupe aussi, avec 10 musiciens, un défi, voire de l'inconscience, je ne sais pas, est-ce que...
C'est un peu, c'est les deux, tout simplement, mais bon, en même temps, quand on lit... quand on lit des biographies de musiciens, musiciennes et des gens qui faisaient la composition, il y a toujours une dose d'utopie, de rêve faut essayer. Faut essayer. Et puis c'est assez puissant, comme sensation, assez grisant aussi. Faut faire attention. Mais par exemple. Ça m'est arrivé là moins depuis quelques temps parce qu'on a réussi à se structurer, à s'organiser. On est moins à l'arrache qu'on était avant, même si on n'a jamais été complètement à l'arrache. Hein, mais on arrive à chaque fois. Je me souviens, il y a quelques temps, quand on finissait une session, moi je me disais c'est la dernière fois. C'est terminé là. On a bossé 6 mois pour faire ça, pour faire 3 jours de répétition, un jour de concert, ça coûte 20 000 euros. Ah, fini. Et puis une semaine après, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y retourner.
Eh ben oui.
Donc effectivement, il y a peut-être un petit côté sadomaso. C'est un petit peu inhumain, mais c'est pas seulement le fait d'écrire une musique, etc. Parce que si mettons qu'il y a une production qui dise on s'occupe de tout, toi t'as juste à écrire la musique, la jouer et puis terminer. Là c'est ça nous coûte pas beaucoup de choses en point de vie. La chose qui est appairée à ce projet Les Rugissants, c'est qu'effectivement moi je fais partie d'une structure qui s'appelle Pégase et les Licons maintenant, qu'on a rejoint un collectif où on porte la production de ça, et du coup on est musicien, producteur, porteur de projet, ouais. Directeur artistique et producteur. Donc c'est cette partie de production qui est, moi je pense, essentielle pour nous. Et tu connais bien le fondateur de cette structure, Frédéric Morin. Et les pères, que ce soit Patrice Caratini, Jean-Marie Machado, méga octet de Andy Himmler, ouais. Qui ont ouvert la voie là-dedans. Et en fait, toutes ces musiques-là, Les Rugissants, ça n'existerait pas sans eux.
Ouais, ouais.
Le Sacre du Tympan non plus. Ils ont ouvert dans les années 80 cette possibilité-là de prendre part à la production et d'être autoproducteur de nos œuvres.
Ah bah justement, je voulais te demander, on va parler du CRI, donc hein, c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui pour le dernier album des Rugissants qui s'intitule Le CRI, on va en parler, mais avant Le CRI, il y a eu D'Humain et d'Animal, et avant encore, 3 albums autoproduits.
Exactement.
Tu vois, et je voulais savoir pour quelles raisons était-ce un choix ? Est-ce que tu peux nous parler de ça, de l'autoproduction des 3 premiers albums ?
C'est malheureusement pas un choix, hein.
Ouais, ouais.
C'est une nécessité, c'est-à-dire que... au tout début, on n'a pas vraiment tapé aux portes. On s'est dit, on va faire. Donc, il y avait dans ce que tu as cité, il y a 3 albums, comme on dit LP, c'est-à-dire des albums de plus de 10 pièces.
Ouais.
L'Insecte et la Révolution d'abord, ensuite D'Humain et d'Animal, et maintenant Le Cri. Et on a fait 2 EP. Le premier qui s'appelait Surgir, et le deuxième qui s'appelait Litanie, qui était qu'avec des chanteuses.
Ah oui.
Donc tout ceci était d'ailleurs, même le nouveau, hein, est autoproduit aussi, même si la structure est un petit peu plus à même d'absorber la production de ce genre d'objet. Mais les quelques fois où j'ai pu taper à des portes de maisons de disques ou de labels indépendants, hein, il faut pas se voiler la face. Je crois que j'ai fait un mail une fois à Universal, mais... Bon, il faut essayer.
Ouais.
Mais ça, c'est... Effectivement, si on ne le fait pas, personne ne viendra nous chercher. Donc, c'est effectivement... Mais c'est une démarche, même pour des ensembles qui ont 10 ans d'existence comme nous, qui ont fait 5
ouais,
disques. Bah, on continue à le faire parce qu'en fait, c'est pour l'instant la seule solution.
Ouais.
Après, si on travaille, on peut travailler différemment, mais il faut aussi avoir des propositions artistiques différentes.
Ouais.
Là, moi, j'ai en projet de faire un travail sur des comptines. Que j'aimerais bien mettre en œuvre, et là pour le coup je souhaiterais qu'on se fasse accompagner parce que on travaillerait vraiment sur autre chose que le réseau qui est actuellement le nôtre, ouais. Jazz musique improvisée, on va dire de création, qui est pour l'instant qui est extrêmement dominé par l'autoproduction.
Ouais, ouais, voilà. D'accord. On écoute un extrait de l'album Le Cri par Les Rugissants. La pièce s'intitule Vacarme.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres et aujourd'hui nous recevons Grégoire Lotouvet qui va nous parler de son dernier album, Le Cri, par son ensemble Les Rugissants. Alors peut-être, avant tout, quels sont les musiciens, Grégoire, qui participent à l'album Le Cri ?
Alors, il y a Jean-Baptiste Paliès à la batterie, Alexandre Perrault à la contrebasse, moi-même au piano et au clavier. Ensuite, Raphaël Erlem au saxophone baryton, Corentin Gignot, clarinette basse, Thibaut Merle, saxophone ténor et flûte, Rémi Scribe, saxophone ténor soprane, Paul de Rémusat, saxophone alto, Léo Janet à la trompette et au bugle, et Jules Boitin au trombone. Et le son est réalisé par Nicolas Charlier.
Très bien. Alors, quelle était l'idée pour cet album et pourquoi ce nom, Le Cri ?
Alors, en fait, c'est venu. Donc, c'est le cinquième programme complet de cet ensemble des Rugissants. On a procédé avant à des compositions qui se faisaient au fil de l'eau, en fonction des concerts, on ajoutait une composition, etc. On montait des programmes comme ça. Et puis, au bout d'un moment, on avait exploré beaucoup de choses. Enfin, c'est un ensemble qui a, je sais pas, une cinquantaine ou une soixantaine de pièces à son répertoire. Bon, on pourrait pas tout rejouer maintenant, mais voilà, en cinq disques, ça commence à chiffrer un petit peu, sans parler des featuring qu'on a fait, parce que moi j'invite beaucoup de chanteurs-chanteuses. Mais là, on avait envie, c'était le batteur qui m'avait dit un jour, tu voudrais pas qu'on, parce que je leur ai dit, j'aimerais bien qu'on parte sur une idée globale, une thématique et puis qu'on travaille sur des, au lieu de travailler, de faire une journée de répétition avant un concert, ou deux journées de répétition avant un concert pour monter une pièce ou deux, d'essayer de tout monter d'un bloc. Voilà, de travailler vraiment comme une création, de théâtre, comme moi j'avais fait un petit peu, c'est-à-dire, on prend un temps, on fait une résidence, on monte un répertoire, et pendant un an, on travaille, on écrit, on répète, on peaufine, on va enregistrer un disque, enfin bref, finalement, le parcours qui est maintenant le plus classique dans ce qu'on appelle la démarche de création, qui est, on va dire, institutionnalisée aussi maintenant, et qui permet aussi de financer ça. J'aurais dit, voilà, une thématique, une idée. À la base, j'avais pour idée de faire un concerto par une pièce par musicien. J'aurais dit ça, et moi j'avais envie aussi de déléguer, enfin d'ouvrir en tout cas l'écriture, puisque ça faisait, j'avais dû écrire 40 ou 50 pièces pour eux, ou d'arrangements pour eux, et je me suis dit, et je sais que dans l'équipe il y a des musiciens qui sont aussi compositeurs, ou au moins qui ont plein d'idées, de direction en tout cas, de morceaux, ou de scénarios de morceaux et tout, il n'y avait pas besoin d'écrire tout noir sur blanc. Et le batteur m'a dit, mais on pourrait faire quelque chose sur le nom du groupe. Voilà, donc on a parlé, Le Cri, etc. Et puis moi, au final, je leur ai proposé qu'on décline ce cri. J'aurais dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est que on décline le cri de la naissance à la mort. Dans un premier temps, c'était un petit peu ça. Donc là, c'est ce qu'on a écouté au début, c'est le cri primal. Et puis après, on a cherché les émotions, des contextes, donc le cri au ciel, l'appel, donc ça s'appelle Céleste l'album. Là, vacarme, le cri de la rue, dans la rue. On ne sait pas si c'est une manifestation ou quand on sort, ou quelque chose qui se passe, mais bref, quelque chose qui parlait de l'extérieur. Une pièce qu'on écoutera après sans doute qui s'appelle L'Indécision, qui est un petit peu le cri de l'indécision, le tiraillement, affre, le cri de l'angoisse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Man, le cri des fantômes, donc de la mort. Et ça, c'est quelque chose qui a guidé l'écriture et l'arrangement, puisque certains des musiciens, donc ils sont quatre en tout, Rémi Scribe, enfin cinq puisqu'il y a une face B, Thibaut Merle sur la face B, Rémi Scribe, Léo Janet, Raphaël Erlem et Alexandre Perrault ont écrit des pièces pour l'ensemble. Ouais. Donc ce sont des pièces que moi j'ai arrangées ou qu'on a co-écrit aussi à partir d'une idée de base et donc qu'on a adapté dans ce répertoire et dans ce disque, donc où il y a neuf pièces qui sont censées définir un trajet avec les acceptions parfois très symbolique, parfois très concrète, de ce qu'est un cri, le cri de la matière, fission. Par exemple, c'est ça. Pour nous, c'était une fission atomique.
Ah oui.
Donc voilà, donc tout ça est symbolique aussi. À certains moments, c'est pas aussi, c'est pas juste crier fort, quoi.
Alors, il y avait ce thème, mais y avait-il des contraintes de composition? Non.
Les contraintes de composition sont dues à l'instrumentarium.
Ah oui.
Mais Non, alors la durée des pièces, de toute façon, enfin, en ce qui me concerne, à 10 musiciens, sauf exception, commande exceptionnelle, toutes les pièces se font naturellement entre 6 et 11 minutes,
ouais.
parce qu'il y a toujours une dramaturgie,
ouais.
Ça se déploie un peu, voilà, sauf quand on arrange une chanson où là c'est d'équerre, ça dure 3 minutes, ou quand on fait une pièce fleuve ou une suite, ça peut durer 25 minutes, mais ouais. sinon le format souvent est comme ça, quand il y a un thème, une improvisation, un thème. Et là encore, hein, je dis dans les très très grandes lignes, hein, puisque tout ça est très très interprété ensuite et très recomposé. Mais à 10 musiciens, avec des changements d'instruments parfois, des changements de timbre, moi je fais piano préparé, aussi Rhodes et clavier, ça va, voilà, on reste sur des formats comme ça. Mais en tout cas, les contraintes, c'était plutôt de dire, est-ce que tu voudrais écrire une pièce? Moi, je vais prendre ce cri-là ou cette idée-là et je vais composer là-dessus. Donc il y avait quand même une petite... On devait susciter un peu la méditation poétique de chacun d'entre nous qui composions, ou qui parce que par exemple pour Alexandre Perrault Céleste, c'était une pièce qu'il avait déjà écrite, du coup qu'on a reconfigurée pour cet ensemble, du coup qui donne quelque chose de très très dramatique, alors qu'à la base sa pièce ne l'était pas forcément. Voilà, ces contraintes là étaient surtout instrumentales, de durée, mais c'était pas, voilà, c'était très très libre.
D'accord. Et quelle est la place de l'improvisation dans les rugissants? Comment tu conçois ça?
En général ou...
En général.
Ouais, alors ce sont tous des musiciens improvisateurs.
Ouais.
Et voilà, tous de très 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 haut niveau, évidemment, enfin, qui ont beaucoup de répertoire et beaucoup de langage, et puis bah, voilà, d'expérience et de réactivité là-dedans. Enfin, ce sont des grands improvisateurs, à mon sens. Il y a toujours des parties écrites et des parties improvisées.
D'accord.
Il y a des parties d'improvisation collective aussi. Enfin, moi, ce qui m'intéresse aussi dans les grands ensembles, et c'est là où ma culture de compositeur pure, entre guillemets, d'écriture totale que j'ai ensuite travaillé à fond, me sert, c'est que justement j'essaye d'écrire, bah c'est la fameuse phrase du Kennington, c'est d'écrire pour l'improvisation. C'est ça tout l'enjeu pour moi, le jazz, c'est ça, en fait. C'est comment est-ce qu'on écrit pour improviser. Voilà. Et qu'on ne sente pas la différence. Bon, ça, c'était après l'idée du Kennington. Dans des très grands ensembles, parfois, il y a des improvisations qui sont très écrites, ou des passages écrits où on ne sait pas si c'est un peu improvisé, etc. Ou Mingus a fait beaucoup ça. Il y a toujours des choses écrites, mais on donne la liberté à tel ou tel soliste de travailler autour du thème pour le faire enchérir, jouer un petit peu derrière le temps, etc., etc. Donc, il y a tellement de strates entre l'improvisation libre, l'improvisation collective, ensuite l'improvisation sur une grille mais sans tempo, l'improvisation sur une grille mais avec un tempo, l'improvisation avec tempo mais sans grille, etc., jusqu'à l'interprétation d'un thème. Toutes ces, voilà, nous on essaye de créer des contextes d'improvisation, et c'est de ça dont je parle, c'est créer des contextes d'improvisation qui soient différents en fonction des pièces, et puis qui soient intéressants pour les solistes en question, parce que moi, ce qui m'importe, c'est de mettre en valeur, enfin, c'est pas on n'est pas sur une valorisation, mais que les solistes, donc je tiens à ce qu'il y ait quand même des solistes, effectivement, qui puissent proposer des choses et les mettre dans des conditions dont ils seront heureux. Mais il y a notamment une pièce qui s'appelle Sauvage sur le disque, où pendant toute la pièce, la rythmique joue autre chose que les soufflants. Toute la pièce.
Ah oui.
Elle fait tourner une rythmique qui accélère progressivement par phase, et les soufflants sont dans un autre espace-temps. Et donc, et ça donne quelque chose. L'inspiration, c'était Home de Coltrane, donc qui était, je sais pas comment ça a été construit, mais en tout cas nous, c'est un petit peu comme ça. Donc il y a un concept qui est très très simple, mais qui irrigue toute la pièce. Et du coup là, le contexte d'improvisation, il est super intéressant par rapport à ce qu'on vient d'écouter, où il y a une grille qui est très rapide, qui est très virtuose, et tout ça demande complètement d'autres compétences presque de soliste. Mais là, dans cette pièce là, Sauvage, ben les solistes volent un peu sur ce que fait la rythmique, puis de temps en temps on est rejoint par les soufflants qui sont dans un autre espace-temps, donc le soliste doit jouer entre les deux. C'est plus comme un espèce de puzzle comme sur lequel il doit jouer, plutôt que respecter une grille, être bien dans le rythme, etc. C'est complètement autre chose.
Ça donne envie de l'écouter, mais On l'écoutera à la maison. Voilà. Je l'ai écouté d'ailleurs, mais avec tes explications, je la réécouterai.
Avec plaisir.
Alors, il y a une démarche assez originale. Tu l'as évoqué. Il y a ce que tu as appelé une phase B destinée aux plateformes numériques, je pense.
Exactement.
Et de quelle matière musicale est-elle constituée et qu'est-ce qui a motivé cette idée? Est-ce que tu peux l'expliquer?
Oui, bien sûr. La phase B, c'était aussi, ça allait dans le même sens de l'ouverture de l'orchestre aux mains des musiciens qui le composent. L'idée, c'était de faire des petites formes. Ça, je leur en ai parlé assez tôt. Bon, on avait aussi un petit peu trop de répertoire pour faire deux disques, enfin pour faire un seul disque. Donc, je leur ai dit, bah tant qu'à faire. Voilà, il y a cette pièce et cette pièce-là, on va peut-être les mettre sur la phase B, qui étaient des pièces qui étaient conçues comme des petits interludes en concert, ouais. Donc qui n'étaient pas vraiment écrites à 10, on y avait passé moins de temps, c'était plus des petites pièces, entre guillemets, des miniatures. Et donc j'aurais dit, bah voilà, on peut faire des miniatures en petite formation, je vous propose, voilà, réfléchissez-y. Mais il n'y avait pas de composition particulière, il y a deux pièces que moi j'ai vraiment écrites, et puis une pièce de Thibaut Merle aussi qu'il avait... qu'on a co-arrangé ensemble. Et donc là, il y a vraiment des espaces différents. Ça commence par un solo de saxophone. Donc c'est Rémi Scribe avec Alexandre Perrault à la basse. Et en fait, on a enregistré d'abord un solo de basse et on a réenregistré du sax par-dessus. Ah oui. Donc en fait, on était plus dans une démarche de production. Dans le sens, tiens, on va mettre ça, ensuite ça, pareil, le solo de batterie, on a fait beaucoup de remontages, j'ai mis beaucoup de claviers. On était plus sur un disque de producteur, au sens producteur sur les bandes, je vais rajouter tel instrument, etc. Avec des petites formes qui sont censées être un peu un miroir de la face A qui est live, qui est à 10 tout le temps, qui sont des formes assez développées. Et là, il y a des pièces qui font une minute. Il y a notamment un solo de Ney. De Doudouk, je sais plus ce qu'il joue, non, de Ney, de flûte, complètement improvisé, ça fait 45 secondes, on a mis une énorme réverb, et voilà, c'était ça la pièce. Et ça m'intéressait que les musiciens puissent composer eux-mêmes en live une pièce en miroir de tout ce qu'on a vécu.
Alors ça, c'est pas sur le disque, hein,
c'est pas sur le disque gravé, mais par contre, c'est sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Le Cri, mais nous, on l'a sous-titré Murmure.
Ah, voilà. Bah oui. Bah oui, bien sûr.
Et voilà. Bah, même si dedans, il n'y a pas que des murmures, évidemment.
Ouais. Alors, j'ai vu qu'en concert, vous étiez accompagné par la grande Leïla Martial. Or, elle n'apparaît pas sur le disque. Il n'y a pas de texte. Comment envisagez-vous son intervention en public?
Eh bien, en fait, on a construit. L'idée de travailler ensemble avec Leïla est arrivée au début de cette réflexion sur ce nouveau répertoire. Nous venions de nous rencontrer avec Leïla Martial. On a travaillé ensemble pour l'Orchestre National de Jazz. J'avais arrangé et puis collaboré à la composition d'une pièce qui s'appelait Femme d'Élie pour le programme rituel de l'Orchestre National de Jazz dirigé par Frédéric Morin en 2019. Et suite à cette collaboration qui était vraiment super intéressante, voilà, je lui ai proposé de nous rejoindre. Ce disque a été commencé, le répertoire Le Cri a commencé à être écrit en 2020. Donc, comme tout le monde le sait, la crise sanitaire a fait que aussi on a dû décaler les projets et que, in fine, je disais à Leïla, j'aimerais bien que tu interviennes sur le disque, et puis en fait, les choses s'accélérant. Au final, je lui ai dit, on n'avait pas encore fait vraiment des concerts sur ce répertoire-là. On a fait quelques-uns instrumentalement, mais bon, on n'a pas trouvé l'occasion de le faire avant. Donc, on a jusqu'à la fin, je lui ai dit, tu voudrais pas nous rejoindre. Et puis, les choses étaient déjà tellement avancées. Je lui ai dit, tu sais quoi, on fera des concerts ensemble. Tu te grefferas sur certains instrumentaux. Donc, c'est ce qui se passe. Elle se greffe sur des instrumentaux, notamment Céleste, où elle chante la ligne de voix. Ah oui. Sur l'indécision aussi, elle improvise complètement avec le saxophoniste. Donc, on trouve des modes et c'est super intéressant puisque les rugissants sont des gens qui sont très réactifs comme ça à amener un petit peu de... Alors, on est un grand ensemble, certes, mais c'est très cadré. Et puis, ce répertoire-là, maintenant, est maîtrisé. Ça fait 10 ans qu'on existe. Donc, on aime bien quand il y a un petit peu d'insécurité qui vient de se greffer là-dedans. Et en live aussi, moi, j'ai arrangé deux pièces de son disque solo qui sortira, si tout va bien, à l'automne 2024. J'ai arrangé deux pièces pour les rugissants. Ça marche très, très, très bien. Et puis, on a fait quelques reprises aussi ensemble de choses que moi, j'avais arrangées. Il y avait une chanson des Beatles, Across the Universe, et aussi un texte de Léo Ferré, justement, Où va cet univers, mis en musique par Yves Rousseau, que j'avais réarrangé pour le grand ensemble. Donc voilà, on voyage, mais c'est un confort génial de travailler avec quelqu'un comme Leïla, qui peut à la fois se greffer comme instrumentiste en plus dans l'orchestre. Elle n'était pas là sur toutes les pièces, hein, mais se greffer comme un instrumentiste et de temps en temps vraiment chanter, et nous on accompagne. Enfin voilà, ça fait partie aussi de ces variations des contextes d'improvisation et de jeu, d'accompagnement, d'être devant, derrière, accompagner, sortir, etc.
Ouais. Alors j'ai vu qu'il y avait des haïkus de Romain Marron qui accompagne chaque pièce. On va en parler de lui après. On va l'écouter là. Je te demanderai d'en parler après. Mais je voulais que tu nous expliques ces haïkus. Pourquoi?
Je souhaitais qu'on comprenne un tout petit peu plus, même si je pense que les haïkus sont suffisamment énigmatiques pour ne pas donner finalement d'explication, mais qu'on comprenne en voyant les rugissants, le cri, la liste des pièces. Donc à chaque pièce s'appelle d'un seul mot: primal, oui. Sauvage. Oui. L'indécision c'est le seul nom, mais il y a man, affre, céleste.
Ah oui.
Amour. Donc voilà, c'est des choses assez énigmatiques. Je voulais que les auditeurs et auditrices puissent imaginer quelque chose en disant primal, le cri, ok, le cri primal. Ouais. Amour, ok, le cri d'amour. Et maintenant, on écoute la musique, ça nous fait rentrer dedans. Mais je voulais un tout petit peu plus de choses. Et donc, je me suis dit, je vais passer commande à mon ami. Donc, c'est un ami d'enfance, Romain Marron, parolier, chansonnier et écrivain, auteur, de faire des haïkus sur ces pièces avec juste le nom que moi j'avais imposé, qu'on avait choisi avec les musiciens qui ont co-écrit les pièces, le cas échéant, et en écoutant la musique. Et voilà, et donc ce sont des haïkus effectivement à chaque fois de trois vers qui sont très très beaux.
Alors, on va écouter Romain Marron. Je signale que le morceau, la chanson qu'on va écouter, commence par la voix d'un être étrange.
Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, ne feront jamais mieux que toi le winner, seigneur start-upper, bon Dieu, le yacht et le jet, putain ce que t'en jettes, sérieux. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, se jettent à la mer. On est dans la merde, j'ai plus rien à perdre, gamin, pas propriétaire, j'ai mal à la terre, putain. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, te crachent à la gueule. J'aurai pas d'indemne si je dépose ma dème demain, et pas d'amuse-gueule au siège de Google, certain. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, se tuent à la crasse. Viens dans les égouts, voir tonton Ricou, au moins les métiers qui cassent, il en sait des masses, toi rien. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, se lèvent aux aurores. Balayer les rues, démonter des grues encore, ou changer des draps pour un livret A, d'accord. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, veulent pas du gâteau. Je fais une allergie à tout ce qui est vite château. J'ai qu'un faux confort et un vieux passeport crado. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, refusent la Légion. Les sciences et les arts, c'est pas des dollars, pauvre con, non je fais pas de nuance, si on parle finance, pardon. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, n'ont pas la lubie d'être millionnaire, puissant actionnaire, tandis, demande à Richard qui bosse à Clochard City. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, n'écrivent pas l'histoire. Y'a le bon citoyen et le citoyen, point barre. Les marches du pouvoir, c'est comme l'abattoir, ça craint. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, ont un sang impur. J'suis comme mal à l'aise quand la Marseillaise sature. J'préfère les timbales de la lutte finale, bien sûr. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, se trouvent dans les gares.
Là sous ton index, loin de ton duplex, peinard, on prend les transports, sardines ou ton porc, cauchemar. Les gens qui ne sont rien, voire peut-être moins, ne feront jamais mieux que toi le winner, seigneur start-upper, bon Dieu, le yacht et le jet, putain ce que t'en jettes. Sérieux.
Vous êtes évidemment sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres avec Grégoire Le Touvet. On vient d'écouter Romain Marron. Alors, Grégoire, est-ce que tu peux nous parler de Romain Marron, avec qui tu collabores beaucoup ?
Exactement, oui. Romain Marron est un chansonnier, parolier, écrivain que je connais. On se connaît depuis qu'on a 15 ans. Voilà, c'est le parrain de mon fils. C'est un ami très, 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 très proche. Et donc, il a écrit plus d'une centaine de chansons à son nom, en tout cas, et plus beaucoup de commandes à d'autres personnes. Donc, voilà, c'est vraiment mon collaborateur le plus proche en ce qui concerne la versification, la mise en musique, la mise en texte de certaines paroles. Il a collaboré avec moi pour l'Orchestre National de Jazz. Un cabaret politique là dont on reparlera peut-être avec le Birgit Ensemble où il écrit toutes les chansons, enfin toutes les paroles des chansons. Et donc Romain, on a fait trois disques ensemble de ces chansons que à chaque fois j'ai arrangées. Et donc là c'est le dernier disque qui s'appelle Spécimen qui est sorti en 2019 je crois ou 2020, en 2019. Et donc cette chanson qui s'appelle Les gens qui ne sont rien, évidemment basée sur la citation de Emmanuel Macron.
Oui. Avis aux émissions de chansons de Radio Libertaire, Romain Marron.
Et oui, exactement. Ouais. Vous pouvez aller écouter, je crois que c'est en tout cas les deux derniers disques, Spécimen et le précédent, sont disponibles sur les plateformes. Voilà, mais en tout cas, je vous invite vraiment à écouter sa poésie. Et donc, j'ai fait les arrangements et parfois écrit les musiques de certaines chansons. Donc là, ce n'était pas le cas parce que c'était une musique de Romain et dont j'ai fait seulement l'arrangement avec une partie des registres qui registrent derrière. Évidemment.
D'accord. Alors, parmi les artistes avec qui tu collabores régulièrement, il y a Elinoa qui a participé au disque d'Humain et d'Animal des Rugissants l'avant-dernier. Et quelques mots sur elle ?
Eh bien oui, Elinoa, je l'ai rencontrée il y a une dizaine d'années, donc chanteuse, compositrice, arrangeuse, chef d'orchestre aussi maintenant, oui. Et on s'est suivi, voilà, on a une collaboration très 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 dense depuis une dizaine d'années. Elle a chanté sur de nombreuses pièces qu'on a soit que j'ai écrites soit arrangées avec les Rugissants. Ensuite elle a monté son grand ensemble qui s'appelle Wanderlust Orchestra il y a je sais pas 8 ou 9 ans, enfin pas longtemps après les Rugissants. Donc on s'est suivi de très très près, on est tous les deux administrateurs de la Fédération Grand Format, donc on milite aussi pour la défense des grands ensembles de jazz en France et en Europe et partout. Voilà, c'est une vraie camarade, on va dire. Elle a participé donc notamment dernièrement à effectivement cet enregistrement qu'on a fait d'Humain et d'Animal en 2018 en chantant une chanson dont les paroles ont été écrites par Romain Marron justement à Rosendo. Oui. Et plus récemment aussi à l'Orchestre National de Jazz, on a collaboré ensemble sur le programme Rituel et sur une autre pièce. Voilà. Et là, je vais travailler avec elle. Mais là, pour le coup, on inverse les rôles. C'est ça qui est intéressant aussi quand on est musicien. Parfois, on est l'employeur, parfois, on est l'employé, parfois, on est le. Voilà, c'est ça. Ça, c'est drôle. Et là, je vais jouer pour elle pour une version de West Side Story en chœur avec un chœur d'amateurs qui va être très, très belle en mai au Pandpiper, pas au Pandpiper, au Bal Blomet. 22 mai au Bal Blomet.
Ah, d'accord. Super. Alors, parmi tous les styles musicaux, tu as parlé dans lesquels tu es actif, tu as parlé de la chanson qui t'a intéressé assez tôt. On a parlé des balles tout à l'heure. Outre Romain Marron, avec quels artistes collabores-tu ?
En ce moment, donc, il y a un artiste avec qui je collabore beaucoup en tant qu'arrangeur. C'est Voyou, doit être à son troisième disque. Enfin, c'est quelqu'un de tellement prolifique que j'arrive même pas moi-même à suivre. Mais voilà, je l'ai rencontré. On a fait donc là pour le coup Thibaut, donc de son nom de scène Voyou. Lui vient de il est trompettiste et il vient de fanfare. En fait, son père était prof de trompette et il a beaucoup. Il a appris la musique dans des harmonies en fait, notamment dans le nord de la France. Et il a écrit une très belle chanson qui s'appelle Lille, là-dessus. Et on s'est rencontrés car un jour, on s'était croisés, parce que c'est un ami d'amis très proche, on s'était croisés quelques fois, on avait fait quelques cafés-théâtres ensemble, enfin bref, il y a très longtemps. Et il a monté ensuite son projet et à un moment, il a eu une proposition pour faire une pièce, une chanson à lui avec un orchestre d'harmonie de 30-40 musiciens amateurs, mais qui jouaient quand même très régulièrement, comme il y a une grande culture là-bas dans le nord, c'était à Lille Five, dans le nord de la France. Et il avait commencé à faire l'arrangement tout seul, et puis un jour il a dit à un ami, oh là, je m'en sors pas, et mon ami a dit, bah, appelle un pote à moi, Grégoire Le Touvet, tu vas voir. Et on a commencé à travailler ensemble là-dessus, et c'était un coup de foudre réciproque sur la méthode de travail, sur l'approche, sur l'ambition aussi. Lui, il avait beaucoup de respect pour le travail que je faisais, et puis moi je voyais lui là où il voulait aller. J'avais beaucoup de respect, d'admiration aussi pour le chemin qu'il était en train de tracer. Mmh. Et voilà, et maintenant il en est à son deuxième ou troisième disque. C'est un artiste qui est très très suivi aussi maintenant, qui fait une superbe carrière. Et je continue à faire des arrangements instrumentaux pour lui, et qui est un grand compositeur, chansonnier et arrangeur, puisqu'il arrange lui-même. Mmh. Et moi je lui file des coups de main, mais pour tout ce qui est partie instrumentale, les cordes, parfois des arrangements de cuivre ou de forme que je suggère, mais en tout cas c'est une superbe collaboration. Mmh. Il a sorti son dernier disque, Les Royaumes Minuscules, il y a un an.
Voilà. D'accord. Bon, on n'aura pas le temps d'écouter parce qu'il y a beaucoup de matière. Je propose qu'on écoute The Rest Is Noise et on en parle après. Alors Grégoire, comment avez-vous eu l'idée avec le violoniste Mathias Lévy de créer ce duo The Rest Is Noise, et sur quelle base musicale l'avez-vous créé ?
D'abord, effectivement, c'est le fruit d'une collaboration avec Mathias Lévy sur pas mal de choses ensemble. On a fait de la chanson, on a fait de l'improvisation libre, on a travaillé ensemble dans le quartet de Louise Jalu, la bande de néonistes aussi, puisque Mathias fait partie de l'origine du projet, de quartet avec Louise Jalu. C'est un musicien que j'adore, que j'admire, qui est un violoniste extraordinaire. Et au fur et à mesure de nos discussions, on cherchait un petit peu ce qui manquait dans nos vies musicales. Un jour, il m'a parlé de ce livre, The Rest Is Noise, qu'il avait lu, de Alex Ross. Oui. Il m'a dit, voilà, ça m'a vraiment mis une claque de repasser un petit peu toute cette histoire du XXe siècle. Ça commence après Strauss, je crois. Ça commence à Strauss et ça finit à aujourd'hui. Enfin, c'était le livre date de 2008, hein, je crois. Et voilà. Et en fait, moi, je l'avais déjà lu, parcouru. Donc, du coup, je l'ai relu. Et on a eu envie de monter un groupe qui s'appelait comme ça. The Rest Is Noise. Alors, il y en a 25 dans le monde, hein, qui s'appellent comme ça. Et l'idée, c'était de travailler sur des choses qui nous intéressaient. Enfin, voilà, c'est très, très, très concret, en fait. Hein. On était là, assis en face de l'autre. Ça te dirait pas que... Moi, je disais, moi, j'ai envie de faire plus de piano préparé. Lui, il disait, bah, moi, j'ai ma pédale d'effet, là, qui me sert à rien. J'adore la guitare électrique, parce qu'il joue très, extrêmement bien de la guitare. Il dit, voilà, j'aimerais bien travailler le violon avec des effets. Bon, vas-y, on essaye. Et on a fait des sessions. Donc on était avec moi, je préparais le piano, vraiment de laboratoire. C'était l'idée, c'est d'avoir un groupe de laboratoire à deux. En plus, c'est superbe comme formation, puisqu'on a un instrument harmonique qui devient un instrument percussif, le violon aussi qui est qui peut aller partout avec les pédales d'effet. On aimait bien un peu partir vraiment. Enfin voilà, c'était de l'improvisation libre. Et au final, on a eu, moi j'avais une résidence au Baiser-Salé à l'époque, donc voilà, on est très très loin de ce qui est habituellement programmé là-bas, mais la programmatrice m'avait fait confiance sur une saison, on faisait 5 dates, j'avais bien prévenu qu'on était, on faisait ce genre de musique, on avait écrit des pièces pour nous, et au dernier moment, on a dit on va pas écrire de pièces. On va pas jouer ce qu'on a travaillé. Okay. On va improviser complètement. Donc moi j'avais piano préparé, clavier avec des pédales d'effet. Mathias avait pédales d'effet sur le violon et violon pur. Et en fait on faisait des improvisations d'une heure. On a fait six concerts je crois, parce qu'on en a fait une autre présentation aussi à Fontenay-sous-Bois de une heure. Mais c'est un groupe qui n'existe plus. Ah, bon. Mais je t'avais proposé ça parce que ce disque-là n'est pas sorti non plus véritablement.
C'était ma question.
C'est pas grave, en fait, parce que c'est un disque qui a été... en fait, on a 5 fois la quantité de faire un disque. On a enregistré 3 jours en 2019. Hein, 2019. Oui. Et en fait, on sortira un jour quelque chose. Ah bah oui. Mais on aime bien l'idée que ce soit aussi un laboratoire. Et en fait, je t'ai proposé ça pour parler des instruments préparés. Parce que c'est quelque chose ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc depuis des années. Et donc, The Rest Is Noise avec Mathias Lévy et le son de Nicolas Charlier, parce que ça, c'est hyper important. On a vraiment fait cet enregistrement, donc qui n'est pas encore sorti, mais ne vous inquiétez pas, ça sortira un jour. Qui était le troisième musicien de l'ensemble, en l'occurrence. Parce que toutes les pièces sont très, très, très différentes. Il y en a qui sont vraiment... noise total, d'autres choses qui sont où c'était très intéressant, parce qu'on a fait une improvisation où lui jouait une partie, puis on enlevait la partie de violon et puis on relevait ce que moi je faisais et on refaisait jouer la partie de violon sur moi ce que je faisais. Donc il y avait tout un truc comme ça sur l'idée d'enregistrement, le processus d'enregistrement. Du coup, on a l'impression que il joue un thème alors que c'est un thème complètement improvisé, donc ça donne une sensation très très étrange. En fait, c'était intéressant dans ce groupe-là. C'était justement de chercher ces choses-là. Donc forcément, on n'a pas fait beaucoup de concerts, mais c'est plus la démarche, en tout cas, qui nous a nourris profondément. Ouais, et tout ça pour dire que actuellement, ensuite, avec Mathias, j'ai collaboré, j'ai fait les arrangements de son dernier disque, Les Démons Familiers, donc pour Grand Ensemble. Donc ils étaient 10 musiciens, musiciennes. Donc là, j'ai fait ces arrangements. Et, enfin, on s'est nourris de cette collaboration-là profonde. Et moi, je travaille particulièrement sur le piano préparé maintenant depuis quelques années. Alors, et j'ai un projet, justement, à 4 pianos préparés... Pour la rentrée.
Tu sais que nous ne sommes pas une émission de spécialistes. Nous sommes en plein après-midi.
Bien sûr.
Beaucoup de gens écoutent. Il faut peut-être préciser ce que tu entends par piano préparé.
Eh bien, peut-être que là, ça fait 5 minutes que vous ne l'avez pas entendu, mais ce que vous aviez entendu précédemment dans la pièce de The Rest Is Noise, le piano est un peu, sonne un peu comme une casserole, pour aller vite. Il sonne un peu bizarrement, et en fait, c'est qu'on place des choses sur les cordes du piano. Voilà. On joue, on altère le son habituel du piano. Le piano fonctionne avec un marteau en feutre, enfin un marteau feutré qui tape sur une corde qui résonne ensuite dans la caisse de résonance du piano. Et en altérant la corde, comme sur une guitare électrique, quand on glisse le doigt ou qu'on met des choses sur les cordes de la guitare électrique, ça va altérer le son. Et là, c'est exactement la même chose sur le piano, sauf qu'on a 88 touches. Oui. Donc on peut faire 88 préparations différentes. Oui. Donc habituellement, moi ce que je pratique, enfin il y a des préparations douces hein, qui sont mettre des aimants, du scotch ou des pinces, on peut les mettre, les enlever. Oui. On peut mettre aussi des e-boats, ce sont des choses qui génèrent un champ électromagnétique, qui font un son tenu.
Des archers électroniques.
Voilà, c'est des archers électroniques exactement. On peut mettre des archers aussi, ça marche très bien. Et voilà, et le travail sur le piano préparé est quelque chose moi que je développe de plus en plus, que j'intègre à des projets dans la pop et la chanson française aussi. Ça se fait de plus en plus. Il y a un arrangeur qui s'appelle Clément Ducol qui travaille beaucoup sur les pianos préparés. Ouais. Un peu de scotch, un peu de, mais ça fait partie de l'altération du son qu'on fait. Et donc là, prochainement, un projet pour 4 pianos préparés que je prépare justement pour la rentrée.
Ah super. Super, super. Bon, alors, allez, on va passer à l'ONJ.
Avec plaisir.
Et on va écouter Dracula l'alchimiste.
À seulement 20 ans, alchimiste j'étais. Aucune formule magique pouvait me résister. Je transformais le plomb en or, je transformais les colombes en hiboux, les tortues en serpents et les aigles en vautours. Pour percer le secret de la vie éternelle et sauver mon aimé d'une maladie mortelle, j'ai mêlé dans mes poudres le sang pur de ma femme, un bout d'os de mon coude, ses cheveux dans les flammes. Au milieu des métaux, des alambics pleins d'eau, d'acide et de vapeur, j'ai fait flamber son corps. Je voulais plus que tout pour mon épouse et moi, vaincra jamais la mort, qu'éternel soit nos corps. Étoile, le lit d'amour d'opale, offrir l'éternité à nos deux guerriers. Alchimiste argenté, ma magie l'a tué. De son visage aimé, la vie s'est envolée. Dans un orage, dans un éclair, le ciel s'est ouvert, le ciel a tonné, le ciel m'a parlé, m'a parlé.
Tu as voulu être semblable au Dieu, tromper la mort par ta magie noire. Ton orgueil a tué ta femme. Je te condamne à errer pour l'éternité. Vampire, tu seras à jamais. Seul l'amour d'un cœur pur saura te libérer avant que ne s'écoule le dernier grain de ce sablier.
Le ciel m'a banni du jour. La lune est devenue mon seul amour, mon unique compagne dans cette vie de vautour. Le ciel a fait de moi la vampire d'aujourd'hui. Le ciel a fait de moi chaque nuit je me transforme et douloureusement chaque jour me fait plus seul. Immortel et mort. Je dois me faire aimer, oublier ma détresse et rendre de nouveau
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à Grégoire Le Touvet. On vient d'écouter Dracula l'alchimiste par l'Orchestre National de Jazz. Alors Grégoire, comment s'est initiée ta collaboration avec l'ONG de Fred Morin ?
Eh bien, ça a commencé avec ma collaboration avec Fred Morin tout court, puisqu'on se connaît depuis quasiment une dizaine d'années aussi. Moi, je suivais son travail avec le grand ensemble qu'il avait monté, Pink Machine, à l'époque. Donc, il avait monté cette structure Pegasus et Lycon, qui est maintenant, que je co-dirige artistiquement avec d'autres Larron et Larron. Et en 2018, nous avions candidaté tous les deux pour prendre la direction de l'Orchestre National de Jazz à la suite d'Olivier Benoît. Moi, j'étais très jeune, donc j'y suis allé un petit peu comme ça. Et on a très vite discuté quand on a vu qu'on était tous les deux au dernier tour de cette candidature. On a discuté de ce qu'on voulait faire ensemble et on a fait en sorte que on soit présent dans les projets de l'un et de l'autre.
Ah, super.
Voilà, et donc dans des formes assez différentes, hein, parce que ça demandait beaucoup de travail. Et puis c'est 2 mois pour faire ce dossier-là. Et à côté, on travaillait aussi sur d'autres choses. Mais donc, Fred donc, a eu le poste. Frédéric Morin a eu le poste. Tout de suite, il m'avait proposé d'être un collaborateur régulier avec lui. Moi, j'étais hyper enthousiaste de faire partie de l'aventure, l'aider au maximum, avec aussi de mettre à disposition les contacts que j'avais, les gens avec qui je travaillais dans le réseau autre que musique, c'est-à-dire là en l'occurrence pour Rituel, mon ami Mali Haroun a fait la vidéo, des gens que je connaissais dans la musique contemporaine ou classique qui ont pu rejoindre l'orchestre parce qu'il y avait des besoins très spécifiques sur certains programmes, sur Dracula, pour faire globalement, en gros, on a collaboré sur 2 des premiers projets de Frédéric Morin en 2019, qui était d'abord le programme Rituel. Donc, ils ont fait d'abord le Ornette Coleman Dancing in Your Head, d'après un programme d'après la musique d'Ornette Coleman, co-arrangé par Fred Palem. Et ensuite, c'était Rituel, donc, qui était un programme co-écrit par Frédéric Morin, Sylvain Ellary, Elinoa, Leïla Martial et moi-même, sur le cycle du jour. De jour et de la nuit, et les rituels humains qui peuplent ces moments de la journée. Et Fred m'a associé à la conception, à l'élaboration et la conception de ce programme-là. L'instrumentarium, vidéo, thématique, concept de base. On a discuté de ça. Les textes, moi, je suis allé chercher des textes dans un recueil qui s'appelle Les Techniciens du Sacré, qu'on a fait versifier pour certains par mon ami Romain Marron, encore lui. Et donc, on a fait une présélection de textes ensemble, etc. Donc, j'ai été associé vraiment à cette conception. Et j'ai écrit aussi une partition qui s'appelle La Métamorphose en Pta, peut-être qu'on écoutera après. Ouais. Et à la suite de ça, il y avait un jeune public. Et dès sa prise de fonction, dès sa nomination, Frédéric Morin m'a dit, jeune public, j'imaginais quelque chose comme ça, avec un récitant sur une thématique, un ensemble comme ça. Et moi, j'avais en fait, pour mon projet pour l'Orchestre National de Jazz, j'avais proposé un projet qui s'appelait Dracula, ouais. Écrit par Estelle Meyer et Milena Xergo. Et j'ai dit à Frédéric Morin, ça te dit pas, moi, j'ai déjà mobilisé un peu des gens là-dessus. On peut imaginer de monter un projet comme ça. Il m'a dit, oui, c'est quoi? Ça parle de quoi? Je lui ai dit, Dracula. Là, j'ai vu que ses yeux se sont écarquillés. Il a fait, mais pourquoi pas? Ensuite, je lui ai présenté les deux écrivaines et actrices auxquelles je pensais. Ça a marché et on a étoffé le projet. On a co-écrit. Donc moi, j'ai écrit des chansons aussi, 4 chansons.
Oui.
Fred n'est pas a pas trop ça dans sa culture, il m'a laissé la main vraiment là-dessus, et on a coécrit tout le reste de la musique. C'était une écriture de plateau, en fait. On se retrouvait les deux écrivaines plus la metteuse en scène, moi-même et Fred nous a rejoint de temps en temps. Tous les jours, on écrivait une nouvelle scène, on la mettait en musique le soir, enfin approximativement, hein, et le lendemain on refaisait ça tous les jours, et on a, en 10 jours on a écrit le spectacle, très grossièrement là, les premières pages, mais c'était un... Voilà, c'était vraiment un tressage hyper collaboratif.
Ah, super.
Et ensuite, nous avons écrit le spectacle en bonne et due forme avec Fred Morin à la rentrée pour une création. C'était à la Strada à Marciac. C'était en décembre 2019.
Ah, oui, d'accord.
Et voilà, et le spectacle a bien, bien voyagé depuis. Et on est très, très heureux de ce spectacle. Voilà.
Et je l'ai vu, donc, au Dunois.
A priori, au Dunois, effectivement, comme tu m'as dit.
Oui, ouais, effectivement.
En 2020.
C'était super. Alors, peut-être on va écouter cette pièce dont tu parlais. Est-ce que tu as d'autres projets avec l'ONG, là?
Non, plus maintenant.
Non,
plus maintenant. En plus, là, il va y avoir un changement de direction artistique à partir de 2025.
Ah, c'est là, d'accord.
Donc, Sylvain Ellary qui a été nommé. Voilà, il va y avoir une nouvelle équipe de collaboration. Après, moi, je suis toujours disponible pour travailler pour cette structure ou pour écrire ou arranger en grand ensemble. Donc peut-être qu'un jour, ce sera le cas. Mais en tout cas, jusqu'à la fin de l'année, a priori, c'est... je vais suivre Dracula, la suite de Dracula.
Est-ce qu'il y a des disques sur Rituel et ou Dracula?
Oui, bien sûr, il y a des disques de Rituel et de Dracula qui existent. Et Dracula, on a fait un livre-disque qui est magnifique, illustré par Adèle Maury, qui est disponible sur le site de la boutique de l'ONJ.
Très
sur
bien.
Leur site.
Super. Bah, on écoute l'ONJ, la métamorphose en Ptah, extrait donc de Rituel.
De Rituel.
Maître du rayonnement, splendide est ton lever à l'horizon, illuminant la double terre de tes rayons. Je suis avec toi chaque jour pour voir ton disque. Que je ne sois pas emprisonné, que je ne sois pas repoussé, que se renouvellent mes membres. Éclipsé et l'or blanc, incomparable est ton éclat. Accorde que je parvienne au ciel par la demeure de tes favoris, que je m'unisse au man auguste de la région inférieure. Puissais-je marcher comme tu marches, sans faire d'halte au soleil? Toi qui n'as pas de maître, traverseur d'espace, pour qui des millions d'années ne sont qu'un moment. Tu te couches et tu subsistes. Tu subsistes d'après tes propres lois. Mes mains t'adorent à ton coucher dans la montagne de la vie. Tu maintiens l'existence des hommes par le fleuve issu de toi. Hommage à toi, très grand, dont les ennemis sont renversés dans leur lieu de supplice.
Se nourrissent les dieux, je me nourrirai, serai maître de leur gâteau. Je m'avancerai. La flamme méprisera les crânes de ceux qui l'entendraient, de sorte que le peuple eut peur de lui et le désigna. Et fit de moi son héritier sur la terre.
Garçon, 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 gar
Bravo.
Merci, je sais pas ce que j'avais pris à ce moment-là. Mais...
Bravo, c'était donc la métamorphose en pta de l'Orchestre National de Jazz. Et il est 16h02 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, et dans l'émission Les Oreilles Libres, dans laquelle nous recevons Grégoire Le Touvet. Je précise l'heure parce que peut-être des auditeurs et des auditrices attendent la diffusion exceptionnelle de l'émission Pas de quartier. Et ne vous inquiétez pas, ça, on termine juste.
Hein. Oui.
Moi, j'ai encore quelques questions à poser à Grégoire. On termine et puis on diffuse cette émission qui porte sur Rougier et Plé dans quelques minutes. Mais je voulais parler de Contemplation, du projet Contemplation. Est-ce que tu peux nous parler des Plateaux Sauvages? Qu'est-ce que c'est déjà?
Bah, les Plateaux Sauvages, c'est un théâtre du 20e arrondissement. Laetitia Guédon, assistée par Jean-Baptiste Moreno. Et donc, c'est un théâtre qui est né en 2016 de la fusion du Centre des Amandiers, qui était un centre d'animation, une MJC, en gros, et le théâtre, le 20e théâtre, qui était un théâtre de ville. Ouais. Et donc, ces deux théâtres ont fusionné. La mairie de Paris a fait un appel à projet. Et donc, est né Les Plateaux Sauvages. Moi, j'étais là dès le début de cette aventure avec un ensemble de théâtre qui s'appelle le Birgit Ensemble, un grand ensemble, mais de théâtre, avec qui je travaille toujours maintenant. Et nous avons conçu avec la directrice et le directeur adjoint une série d'interventions en tant que compositeur associé. Et leur première idée, donc là on va monter un opéra pour octobre. Ouais. Qui sera donc une première maquette sur une partie de l'Odyssée d'Ulysse, voilà, mais j'en reparlerai plus tard. Et la première partie de cette association en tant que compositeur associé était, on a appelé ça Contemplation, c'était l'idée de mettre en musique le lieu. Et donc nous avons créé une balade sonore musicale qui est toujours accessible quand vous allez au Plateau Sauvage.
Ah ouais.
Voilà, il y a des stations, il y a 12 stations dans les Plateaux Sauvages qui permettent de visiter le lieu.